des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon mardi, bon lendemain de veille d'élection. Avez-vous remarqué quelque chose? Supposément qu'en ce moment, la question environnementale, c'est la question la plus importante. Écoutez, chaque semaine, il y a des rapports qui nous disent à quel point on se dirige vers l'apocalypse. C'est vraiment... On ne compte plus le nombre de sonnettes d'alarme qui ont été tirées par différents organismes partout à travers le monde. Et normalement, dans ces élections-ci, le Parti vert, qui est le parti qui porte très haut le flambeau de l'environnement, aurait dû faire des gains. Ben non. Elle a même pas été élue, Annamie Paul, dans son comté. Elle a fait perdre des voix à la cause environnementale. Je pense qu'il y a des gens ce matin qui doivent se poser de sérieuses questions. Est-ce que vraiment l'environnement vous tient tant que ça à cœur? Quand j'ai vu les résultats du vote du Parti vert, j'ai posé un très intrigué. Ben voyons donc.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
En ce lendemain d'élection, plusieurs de mes collègues y vont d'analyses savantes sur les résultats du vote. Un des textes qui attire le plus de commentaires sur le site du Journal de Montréal et du Journal de Québec, c'est celui de ma collègue et amie Denise Bombardier. Un texte qui s'intitule, c'est peut-être aussi, ça contribue peut-être aussi à l'attrait de ce texte, « Élection fédérale, un pays sans bon sens ». Denise, êtes-vous en train de nous dire que le Canada, c'est un pays qui a pas de bon sens?
Oui, je suis en train de dire ça et je le pense de plus en plus parce que c'est un pays qui est atomisé. Il est atomisé à cause de l'orientation très accentuée parce que c'est évidemment, faut pas que, parce que les droits de l'homme puis le droit des individus versus les droits collectifs au Canada, c'est, je veux dire, c'est l'esprit de Pierre Elliott Trudeau. Mais comme je dis, son fils est allé beaucoup plus loin. Son fils a dit le Canada c'est un pays post-national. Oui. Nous n'avons pas. Il a même fait des déclarations à l'étranger où il disait que dans son pays il n'y a pas dit des valeurs communes, mais il n'y avait pas de choses. Chacun pensait ce qu'il voulait penser. Bien, on le sait d'ailleurs. Eh bien, ça ne pouvait pas ne pas avoir de répercussions sur la façon de voter. Parce que c'est vrai que le bipartisme, hein, nous notre système canadien, c'est le système du bipartisme, c'est-à-dire que un parti remplace l'autre et ça alterne et à travers l'histoire, c'était beaucoup ça. Mais maintenant, ça n'est plus ça parce que les opinions,
les tierces parties, oui.
Les tiers partis prennent quand même ils peuvent prendre la balance du pouvoir. On l'a encore vu hier, on l'a vu comme on l'avait vu, il y a deux ans. C'est que ça n'a pas bougé. C'est-à-dire, tout le monde est en train de étirer les résultats pour dire oui, mais ils ont eu un vote de plus ou un vote de moins. Ils ont pris 1% de plus ou de moins. Il y a quelque chose de changé. Il n'y a rien de changé.
Mais rien de changé. Oui, mais ce que je retiens de votre texte, Denise, c'est que ça a peut-être jamais été aussi apparent et aussi clair à quel point le Québec est une société distincte, à quel point le Québec est une société à part, à quel point le Québec, parce que vous le dites, il y a Trudeau qui dit le Canada est un pays post-national et pourtant au Québec on n'a jamais été aussi nationaliste. Ce sont deux visions irréconciliable et on l'a vu plus que jamais.
Mais c'est irréconciliable parce que nous croyons en certaines valeurs communes. Et ça, évidemment, le premier ministre Legault le répète. Nous avons des ce qu'il appelle les valeurs québécoises, ce qui fait dire au reste du Canada que quand on a des valeurs québécoises, on est raciste. Parce que ces valeurs reposent effectivement sur la définition sur la défense de la langue et de la laïcité. Ce que c'est une conception qui n'est pas anglo-saxonne.
Mais il n'y a même pas de mot en anglais. Il n'y a même pas de mot en anglais qui décrit exactement, parce qu'on dit secularism, oui. Le côté donc séculaire, mais ça ne traduit pas exactement ce qui est la laïcité.
Oui. Non. Ça nous vient, ça, de l'esprit des philosophes des Lumières et que la France a appliqué après. C'est le principe de la laïcité, de la séparation de l'Église et de l'État et de la neutralité de l'État par rapport à toutes les religions qui existent et qui continuent d'exister parce que les gens ont le droit d'avoir la religion qu'ils veulent, mais on ne peut en aucun cas, créer des institutions qui reconnaissent ces différences à l'intérieur des institutions de l'État. Et nous, on va pas très loin, là. La loi, ça empêche simplement les policiers, les policiers et quelques catégories, hein, ces trois catégories, les enseignants, d'apporter un voile pendant qu'ils travaillent.
Hein, et pas juste le voile, hein, c'est tous les signes religieux. Oui. Je tiens à le souligner parce qu'il y a beaucoup de gens, en effet, qui accusent la loi 21 de ne viser que les femmes musulmanes, mais c'est autant la kippa, c'est le turban, c'est la croix autour du cou, c'est tous signes religieux. Denise, il y a beaucoup de gens ce matin qui disent « ça n'a servi à rien ». Vu qu'on a le même résultat à peu de choses près, ces élections n'ont servi à rien. Et si, au contraire, ces élections avaient servi à quelque chose, c'est de
montrer, Sophie, ça sert
le vrai visage que nous du Canada sommes, anglais.
Ce que j'ai écrit, c'est que nous sommes atomisés et qu'il va toujours avoir des partis qui vont prendre la balance du pouvoir. On s'en va sans avoir transformé la mécanique électorale. Parce qu'on n'accepte pas, d'ailleurs, il y a beaucoup de résistance au Québec au fait de changer, d'introduire des éléments proportionnels. Mais sans avoir eu à faire ça, c'est exactement ce qui se passe au Canada. Et le Canada est un pays qui va, dont on peut penser, hein, qu'il va gouverner de plus en plus avec des il va être gouverné de plus en plus par des partis qui seront minoritaires. Nous aurons, il n'y a pas un parti qui va pouvoir arriver à faire, à réussir à rejoindre le plus grand nombre de gens possible.
Oui, à faire le plein de votes, comme on dit.
Il y a seulement Québec. Regardez les appuis.
Ah, les chiffres de la CAQ. Les chiffres de la CAQ, c'est hallucinant. Là, ils se dirigent.
On sait que la CAQ. Voilà.
Alors, mais au-delà de ça, Denise, permettez-moi, au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas quand même, quand on dit, bon, c'est du pareil au même, c'est blanc bonnet, bonnet blanc, parce que bon, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé? Je fais référence, bien sûr, au débat anglais et à toutes les analyses qui ont suivi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé quand même dans l'esprit des Québécois qui peut-être était un peu dormant, qui disait, bon, ben c'est pas grave, le reste du Canada nous aime pas trop, c'est pas très grave. Est-ce que quand même cette élection n'a pas réussi à montrer aux Québécois l'ampleur du mépris du reste du Canada pour le Québec, parce que c'est pas juste des fermiers de l'Ouest des rednecks en Ontario. Quand c'est rendu que dans un débat national diffusé à CBC TV Global, que la modératrice pose la question du racisme du Québec, ça veut dire que même les élites canadiennes anglaises nous méprisent. Est-ce que ça n'a pas été ouvrir les yeux des Québécois quand même?
Mais quand vous parlez des élites canadiennes anglaises, c'est pas seulement des Canadiens anglais de souche, c'est que les immigrants qui arrivent ici, hein, le Canada est un pays de très grande immigration. On a plus d'immigrants par année ici qu'en France où il y a 64 millions d'habitants. Bon. Et en ce sens-là, on en a plus que proportionnellement qu'aux États-Unis, au Québec. Alors, ça, ça veut dire que c'est que c'est les gens qui nous viennent d'ailleurs ne sont pas des gens nécessairement qui viennent de démocratie d'abord. Et on leur dit de, on ne pratique pas l'intégration. L'intégration, c'est perçu comme étant une violation de leur liberté d'être eux-mêmes distincts. On leur dit, vous restez ce que vous êtes. C'est ça qu'on leur dit. Alors donc, ça vient aussi du fait qu'au Canada, et si vous regardez d'ailleurs, si vous regardez l'Ontario, vous allez voir la proportion des gens qui sont nés à l'extérieur de l'Ontario, et surtout dans toute la région de Toronto, c'est une proportion qui est très, très importante, qui est au-delà de 50% pour ce qui est pour ce qui est de la région de Toronto. Eh bien, ces gens-là n'ont pas cette culture-là. Je veux dire, et eux, ils défendent et ils profitent au Canada de cette vision post-nationale et multiculturelle pour maintenir leur différence. Et comment voulez-vous avoir des consensus dans un pays où, qui est défini en fonction de la couleur de ta peau, en fonction de ton origine ethnique, en fonction de la différence de ta culture, de ta religion? C'est impossible. Mm-hmm. C'est impossible. Alors qu'au Québec, il y a encore une cohésion importante. Et il y a une petite partie quand même des immigrants qui sont ici, qui partagent les aspirations québécoises. Ceux, par exemple, d'ailleurs, on en a, c'est surtout des femmes qui sont connues dans l'opinion publique pour défendre des femmes qui viennent de pays musulmans et qui ont quitté ces pays-là, justement, absolument, pour venir au Québec. Parce qu'elles savent que la laïcité, ça existe au Québec et qu'elles pouvaient vivre dans un climat d'égalité entre les sexes. Ces femmes-là, Denise, évidemment, ouais, et ces gens-là sont des gens qui sont capables de défendre la laïcité chez nous et la langue française. Ça leur porte pas, au contraire.
Oui, souvent, ben oui, on pense à Ensaf Haïdar, la conjointe de Raïf Badawi, le blogueur saoudien, condamné à 10 ans de prison et je sais plus trop combien de coups de fouet, oui, qui s'est présenté pour le blog. Donc, défense du français, ouais, défense de la laïcité.
Et je vous signale que ceux qui lui ont reproché de ne pas parler français alors qu'elle défend son mari.
Épouvantable.
Pour la cause qui est la cause la plus terrible actuellement. Regardez comment les talibans traitent les femmes en Afghanistan depuis le coup. Eh bien, on lui a reproché de ne pas parler assez bien le français. Mais la gouverneure générale du Canada, elle ne parle pas le français du tout, elle. Alors ça a joué contre elle. En politique, il y a des adversaires
C'est assez dégueulasse.
Qui ont voté pour elle à cause de ça.
Vous voyez? Oui, c'est assez dégueulasse.
Donc, on est une société tellement différente, mais là, c'est le Canada qui s'est éloigné le plus de ce que l'on est. Nous sommes la seule société en Amérique du Nord et dans les pays anglo-saxons, la seule société qui est compris à l'intérieur du Canada, parce qu'on est toujours Canadien, parce que c'est ça qu'on a choisi, n'est-ce pas, dans du référendum, jusqu'à maintenant, c'est ça qu'on a choisi. Nous sommes la seule société totalement différente de tout le monde anglo-saxon qui nous... Et les anglo-saxons, ils ne comprennent pas ça. Regardez, lisez le New York Times, lisez d'autres grands journaux américains, Washington Post, et des journaux,
oui,
comme ça.
Mais
ils vont parler de racisme au Québec. Quand vous dites
mais
racisme,
absolument. Et c'est, voilà. Mais c'est passionnant. Je sais pas si vous avez vu passer la semaine dernière le Washington Post dans sa section de lettres ouvertes, oui, qui est ouverte à différentes personnes là, qui souhaitent s'exprimer sur différents sujets. Ils ont publié la lettre d'un Québécois d'origine vénézuélienne qui écrit en expliquant pourquoi il va voter pour le Bloc québécois.
Je l'ai lu.
Et vous lisez, c'est passionnant, ouais, c'est passionnant. Et ben vous, ouais, lisez les commentaires qu'il y a à la suite de ce texte-là. Ce ne sont que des anglophones canadiens qui traitent le Bloc québécois de xénophobe, de raciste, qui traitent les Québécois de xénophobe, de raciste, d'intolérant, de bigot. Il y a rien qui est pas dit et c'est la majorité des commentaires qui sont publiés à la suite de ce texte-là. Mais là, je vous pose la question suivante, Denise. Sachant ça, sachant qu'il y a eu le débat anglais, sachant qu'il y a eu cette question biaisée, sachant que on l'a vu pendant la campagne à quel point il y a une dichotomie entre la façon dont le Québec pense et la façon dont le reste du Canada pense, comment expliquer que le Bloc québécois ait pas fait un plein de votes? Comment ça se fait que Yves-François Blanchet a pas eu les 40 sièges dont il rêvait?
D'abord, c'était une erreur de dire ça en début de campagne. En début de campagne, on va pas faire
rapidement,
le fin finaux. On est d'accord là-dessus. Ça, ça a été une erreur de sa part, mais ça n'intéresse que les journalistes. Mais c'est vrai quand même. Bon. Eh bien, parce que les Québécois n'ont pas encore assez reçu de coups de poing sur la gueule. Ils n'ont pas encore assez été insultés. Ça veut dire que notre taux de tolérance et surtout notre incapacité à répondre, sauf pour s'envoyer des bêtises entre nous, puis de s'insulter entre nous, hein, à l'intérieur même de la tribu, je dirais, eh bien, on n'en a pas encore assez reçu.
Et on va se quitter là-dessus, Denise. Je trouve que c'est bien résumé. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Je vous embrasse. Après. Merci beaucoup, Denise, et félicitations pour votre texte de ce matin.
Merci.
Donc, j'encourage
tout
le monde
Sophie,
à aller lire ça. Merci, Denise. Élection fédérale, un pays sans bon sens.
Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique.
Cube Radio.
Et il y a beaucoup de mes collègues, beaucoup de mes amis qui se sont couchés tard hier soir pour avoir finalement les résultats de cette élection totalement inutile qui a servi strictement à rien. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour. Ben oui, tout à fait. Quelle drôle d'élection. Puis on en avait parlé le lendemain du déclenchement, puis on se demandait mais pourquoi? Parce que tu sais, l'appel au vote, c'est une démarche qui exige une super grande mobilisation. C'est pas rien faire un appel au vote. T'sais, on interpelle une nation pour faire des choix, pour leur vision, peut-être de leur pays. C'est ça, un vote.
Oui, il faut qu'il y ait un enjeu.
Et les oppositions ne semblaient pas demander d'aller en élection. C'est-à-dire qu'on sentait pas qu'il y avait une pression sur le gouvernement libéral. On sentait pas que Justin Trudeau, partout où il allait, on lui demandait « il faut aller en élection, on veut du changement ». Ça n'existait pas. Et il a décidé d'y aller parce qu'il a vu une fenêtre d'opportunité probablement pour arriver à être un gouvernement majoritaire. Et finalement, c'est pas ça du tout. Là, il y a quoi? Il y a deux députés de plus qui en avaient la veille de l'élection. Alors, moi, je ne sais pas comment il sent ce matin Justin Trudeau. Même hier soir, quand il a fait son discours, ça a été très long avant qu'il le fasse. Mm-hmm. Et je me demande, tu sais, comment il se sentait par rapport à son pays, tu sais, par rapport à ses électeurs. C'est épouvantable, moi, je trouve, d'avoir dépensé, on dit 600 millions, mais c'est probablement plus que ça, là. Tu sais, 600 millions, c'est les partis, mais il y a d'autres dépenses afférentes. Alors, je serais curieuse de savoir le montant final.
Ouais. Alors notre collègue Maxime Lacasse, qui est réalisateur et à la mise en onde de l'émission, qui est arrivé avec une bonne comparaison ce matin. Alors Maxime, raconte à Marie-Claude ce que tu m'as dit quand on est arrivé ensemble ce matin. Raconte tout ça.
En fait, les élections comme c'est cyclique, ça me faisait vraiment penser à l'auberge du chien noir. Ça revient à chaque année, puis c'est toujours de plus en plus plate.
Et alors, le scénario change très peu. Moi, je trouve que c'est une excellente comparaison de la part de Maxime.
Oui, ça s'est terminé un jour aussi.
C'est
la conclusion.
Mais ce qui est assez frustrant aussi d'un autre point de vue, c'est quand on a regardé le débat anglais que la modératrice Shashi Kirl a posé sa fameuse question très biaisée dans laquelle elle disait vous dites que le Québec est pas raciste mais vous avez des lois discriminatoires, c'est la question qu'elle a posée à Yves-François Blanchet. Écoute, nous les commentateurs et les commentatrices et les analystes, on a ergoté pendant des heures et des heures. Il y a de l'encre qui a coulé là-dessus. Il y a des commentaires qui se sont faits à quel point ça allait être un moment tournant puis que ça allait changer la donne pour le Bloc québécois. Ben, quand tu vois que ça a juste un tout petit peu fait osciller l'aiguille, ben, tu dis, même ça, ça a pas réussi à galvaniser les troupes. C'est quand même assez surprenant, là.
Mais moi, il y a deux choses. Moi, je me demande s'il n'y avait pas eu ce moment-là, justement, dans le débat anglophone, est-ce que le Bloc aurait fait moins? Tu sais, est-ce que quand même, ça l'a donné... Est-ce que ça aurait pu être... sais, plus bas pire. En nombre de...
Ouais.
Pire, oui. Est-ce que ça aurait pu être pire? Je me pose la question parce que moi, j'avais quand même l'impression que ça a rassemblé des gens puis dire, ben là, voyons donc, c'est comme on va s'unir à quelque part. Mais en même temps, Sophie, dans cette campagne-là, il n'y avait pas d'énergie. Le fait, il faut aussi noter quelque chose. C'est la première campagne électorale ici qu'on voit sous fond de pandémie. Et oui. Les rassemblements, là, ça galvanise les troupes. Quand il y a des rassemblements à quelque part, là, dans une région, là, c'est sûr que c'est à travers le Canada, mais mettons, pour le Bloc québécois, il y en aurait partout au Québec. Il y a quelque chose aussi de voir du monde qui ont de l'air heureux d'être là. Des fois, tu as envie d'embarquer dans ce train-là, mm-hmm. peu importe le parti. Mais là, avec la COVID et les mesures sanitaires, il n'y a pas eu de ces grands rassemblements. Mm-hmm. Tu sais, on voyait des fois 70 personnes dans un restaurant, mais ça ne donne pas nécessairement le goût d'embarquer dans ce train-là.
Ça ne donne, donne pas des petites de la chair de poule de voir 70 personnes réunies le casse-croûte de Saint-Romuald. Oui, c'est ça. Mais on le sait, je veux dire, la politique, c'est de l'émotion, là. Je veux dire, t'as beau parler aux gens de façon rationnelle, des fois, c'est juste un déclencheur émotif qui va faire que les gens vont basculer d'un côté et de l'autre.
C'est des perceptions.
Voilà. Et donc, hier soir, je sais que toi, tu t'es couché très tard parce que t'as vraiment écouté ça jusqu'au bout. Moi, je suis allée me coucher à un moment donné mais par contre, toute le début de la soirée électorale, je l'ai écouté avec mon fils qui a 13 ans. Et c'était la première fois que, parce que bon, il y a 2 ans, écoute, il y avait 11 ans, là, la politique, ça y passait 8 pieds par-dessus la tête. Mais à 13 ans et demi, tu commences à t'intéresser à ces questions-là. Et écoute, il est arrivé à 2 reprises où Pierre Bruneau annonçait en direct à des candidats qui étaient interviewés à TVA LCN, il leur annonçait live, si je peux m'exprimer ainsi, qui venait de remporter. Oui. Et les gens étaient émus. C'est arrivé à Pablo Rodriguez, c'est arrivé à Alain Reyes. Et mon fils, ça l'a touché. Il disait, maman, ils ont l'air tellement contents. Et je trouvais ça chouette d'écouter ça avec mon fils parce que je me disais, il vient de comprendre quelque chose. Il vient de comprendre pourquoi il y a des hommes et des femmes qui font des sacrifices humains énormes au détriment de leur famille, au détriment de leur temps personnel pour s'engager en politique. C'est pour ce moment-là. C'est pour le moment où tu sais que t'as remporté tes élections, où tu salues l'équipe qui a travaillé pour toi. C'était extrêmement émouvant.
Ah, mais t'as tellement raison. Tu sais, moi, j'ai connu Alain Reyes comme dans une autre vie. Et c'est quelqu'un que je trouve, souvent, c'est un bon gars. Là,
oui, c'est un bon gars.
Et hier, je le voyais avec sa gang. Moi, je suis comme ton fils aussi. Là, ça m'a ému de le voir aussi heureux d'avoir à nouveau la confiance des gens. Parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Ceux qui ont été élus sont allés chercher la confiance de leur population. Alors, eux, ils célèbrent, mais tu sais, en même temps, tu sais, quand tu regardes au niveau national, ben là, quand tu regardes en haut, ils disent, ouais, finalement, ça change pas grand-chose, mais il reste que eux, ils viennent d'avoir un renouvellement de confiance de la part de leur population. Mais il reste que je trouve que Justin Trudeau a banalisé le pouvoir démocratique. Tu lances pas une élection comme ça. Je reviens encore à ça parce que ça, la finale le prouve. Puis je calculais ce matin, tu sais, il y a eu, je suis allée sur le site d'Élections Canada, puis il y a eu, mettons, presque 60 % des gens au Canada qui ont voté. Et le Parti libéral du Canada a eu 31, jusqu'à maintenant 31 %. Ça donne 19,1 %. Donc, ça veut dire que lui, il est premier ministre du Canada avec 19,1 % des votes des Canadiens. Alors, tu sais, c'est peu.
Ouais,
c'est peu
notre
pour
système électoral. Ouais, c'est notre système électoral qui veut ça. Et ça peut être en effet frustrant. Puis, je suis contente que tu amènes ça là-dessus parce que c'est ce que j'essayais d'expliquer à mon fils hier parce qu'il essayait de comprendre les chiffres et tout ça puis combien il y a de bureaux de scrutin qui ont été dévoilés. Non, mais c'est la démocratie en direct. Hein. Ouais. Et là, je lui expliquais. Puis là, il dit, bon, ben c'est celui qui a le plus de voix qui gagne. J'ai dit non, pas exactement. C'est celui qui a le plus de députés qui gagne. Puis là, il disait, pourquoi les gens parlent de sièges? Je dis, des sièges. Qu'est-ce que c'est ça?
Hey, c'est vrai, hein? C'est vrai, nous, on prend ça pour acquis.
Ben oui!
C'est vrai que pour quelqu'un qui est plus jeune, comme ton fils, découvre la politique, il se demande qu'est-ce que c'est, effectivement.
Il comprenait pas pourquoi les gens étaient aussi obsédés par des chaises. Il dit, c'est quoi cette affaire-là, des chaises? Mais donc, d'expliquer aussi que c'est pas forcément celui qui a le plus fort pourcentage de gens qui votent pour lui, qui va former le gouvernement. Bref, c'était drôlement intéressant. Puis vraiment, j'en parle ce matin parce que je trouve que il faut impliquer nos enfants là-dedans. Je regardais, par exemple, hier, Elsie Lefebvre qui racontait sur Instagram ou sur Twitter qu'elle amène toujours ses enfants quand elle va voter, elle emmène ses enfants avec elle. Bon, on peut dire qu'elle a été impliquée en politique et au municipal et au provincial, mais donc tu sais, d'impliquer nos enfants, de pas penser que parce qu'ils sont jeunes ils peuvent pas comprendre, puis aussi parce que c'est des décisions. Écoute, la dette dans laquelle on s'est mise là, c'est eux qui vont être pognés pour la payer pendant une couple d'années.
J'ai eu mon petit moment d'émotion hier parce que moi, je suis allée voter avec ma mère et ma fille. Et c'est la première fois que Juliette votait. Et là, ils nous ont permis, comme on est dans la même bulle, ils nous ont permis d'aller à côté du bureau de vote, les trois. Donc là, j'ai vraiment vu Juliette qui est allée dans l'urne. Puis elle était nerveuse, elle se demandait si elle allait bien faire ça. Finalement, bon, elle a bien vu que c'était très simple, là, voter. Mais j'étais là, OK, wow! T'sais, c'est un geste citoyen important de faire ça. Oui, c'est moi aussi, mes enfants sont venus regarder ça ici hier soir, puis j'aime entendre leurs commentaires. Puis effectivement, eux, ils se préoccupent de comment on va payer la suite, là, tu sais, parce qu'on voit qu'il y a moins de jeunes, tu sais, sont plus, j'y trouve, plus concernés par l'état des finances publiques, mettons, que moi, je l'étais il y a 30 ans. Tu sais, il y a quand même des enjeux pour eux qui sont quelque chose. Alors, tu sais, il faut qu'ils s'occupent aussi de la politique, il faut qu'ils regardent ça. Alors, c'est à suivre. Et moi, la grande question que je pose, c'est, serons-nous encore en élection fédérale dans 18 mois?
Chut! Chut! Viens-tu dire quelque chose, toi? Viens-tu de dire quelque chose, Marie-Claude Barrette? Non, je veux pas t'entendre.
et je veux juste dire que j'ai trouvé qu'Erin O'Toole, dans son discours hier soir, avait plus d'énergie dans une soirée qu'il y en a eu dans toute la campagne électorale. On dirait que je comprenais pas comment ça se fait. On dirait que hier, là, tout à coup, là, il se réveillait. Il y avait quelque chose qu'il avait pas pendant la campagne. Il avait l'air plus d'un combattant hier. Je me disais, OK, ça arrive la dernière soirée, quand même. Là, c'est arrivé, mais je veux dire, il y avait quelque chose de particulier. Alors, peut-être que ce sera les partis d'opposition qui voudront une élection dans 18 mois, mais je pense que la prochaine fois qu'on va aller aux urnes, ils vont s'assurer que l'ensemble des Canadiens ont envie de voter. Et puis, quand on dépense des millions et des millions et des centaines de millions, ben tu sais, à un moment donné, on peut pas faire ça tout le temps. Là. Même là, ça n'a aucun bon sens qu'on revienne presque comme avant. Après avoir... Tu as commencé en disant que ça n'avait rien donné, puis c'est exactement ça, malheureusement.
Ouais, c'est ça. Écoute, il y a un sujet que tu m'as amené, puis je suis contente que tu me l'aies amené, parce que moi, je suis pas vraiment une fille de sport, mais dans ce cas-ci, ça dépasse largement le sport. Jonathan Drouin, donc joueur de hockey, l'attaquant du Canadien, qui s'est confié à deux réseaux, à TVA Sport et à RDS, sur son absence au jeu plutôt cette année. Et il est très courageux parce que ça a à voir avec la santé mentale.
Exactement. Et moi, je peux te dire que j'entendais beaucoup de partisans lors des séries parce qu'il n'était pas là. Il a quitté le 21 avril, c'était son dernier match. Après ça, bon, il a quitté pendant l'entraînement le 23 avril. On ne l'a jamais revu. Puis il y en a beaucoup qui disaient, ben voyons comment ça se fait. Il est dans son salon. On aurait besoin de lui pendant les séries. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il y a un gros tabou, puis lui, on se doutait quand même qu'il y avait probablement un problème de santé mentale. Il y avait aussi des rumeurs qu'il serait peut-être en désintoxication parce qu'il a tellement quitté rapidement. Et finalement, il a vraiment dit aux deux journalistes qui l'ont interviewé, il n'a jamais eu de réhabilitation, il n'a jamais eu de désintox. J'ai des problèmes d'anxiété qui m'empêchent de dormir. Imagine, là, tu sais, c'est de l'anxiété sévère.
C'est énorme.
Et là, finalement, tu sais, il disait, le dernier match qu'il a fait le 21 avril, il n'avait pas dormi depuis deux jours. Fait que là, à un moment donné, il s'est dit, mon corps ne suivait plus ma tête. Il a fallu qu'il se rende à l'évidence. Ça faisait plusieurs années là, qu'il savait qu'il y avait des problèmes. Mais là, il a accepté de demander de l'aide professionnelle, de psychologue, pour être capable de régler, tu sais, l'anxiété, ça se règle jamais complètement, mais d'avoir des outils pour gérer cette anxiété qui devient envahissante. Je recevais David Goudreau la semaine dernière à mon émission et il m'a dit, je viens d'accepter mon diagnostic d'anxiété généralisée. Ça fait 4 ans qu'on voulait lui annoncer. Il ne voulait pas l'entendre, ce diagnostic-là, parce que c'est des diagnostics qui sont sévères et tu dois apprendre à vivre avec. Et lui, dans ce cas, Jonathan n'a pas parlé d'anxiété généralisée, mais on peut comprendre que quand l'anxiété t'arrête de fonctionner au point de quitter ton équipe de hockey, de prendre une pause, c'est que ça devient sévère. Alors moi aussi, je le trouve courageux de le dire, mais je pense qu'il devait quand même expliquer son absence. Évidemment, il y a une raison quand tu quittes aussi abruptement. Mais
Il donne pas énormément de détails, puis c'est important aussi de le respecter.
De garder ça, ouais.
Mais juste de remettre les choses en perspective, de dire, bon, ça n'a rien à voir avec la drogue ou l'alcool, c'est vraiment un problème d'anxiété. Alors, il y a deux choses que je veux dire. Moi, je trouve que, tu sais, surtout dans l'imaginaire québécois, le joueur de hockey, c'est le gars fort, c'est le gars solide, c'est la virilité, c'est la testostérone, c'est vraiment la solidité. Alors qu'un joueur de hockey aussi apprécié, aussi acclamé, dise... Ben, je suis fragile, je suis vulnérable. Ça, il faut le souligner, c'est énorme. La deuxième chose, la deuxième chose, juste là-dessus, que je veux dire, c'est que lui, il a la chance, entre guillemets, de faire partie. Bon, d'abord, ils sont très bien payés, évidemment, les joueurs de hockey. Et il a la chance de faire partie d'un organisme qui est le Canadien, qui le prend en charge. Donc, il peut, quand il dit, j'ai besoin de voir un psy, dans les jours qui suivent, il y a un psy. Au Québec, si tu t'appelles Monsieur et Madame Tout-le-Monde puis tu t'appelles pas Jonathan Drouin, si t'as pas d'assurance avec ta compagnie, si tu travailles à ton compte ou si t'es pigiste, bonne chance pour avoir un psy. Et ça, c'est un scandale parce que oui, il y a des Jonathan Drouin qui peuvent avoir ces services-là, mais si tu t'appelles Monsieur et Madame Tartampion, le temps d'attendre pour voir un psy au Québec, c'est de 2 ans. Fait que ton anxiété a le temps d'augmenter, a le temps d'empirer et à un moment donné, au Québec, il va falloir qu'on se retrousse les manches puis qu'on règle cette situation-là qui est scandaleuse.
Ah, mais absolument, c'est ce que je m'en allais dire aussi parce que les psychiatres, c'est la même chose, c'est encore un délai plus long et c'est eux qui prescrivent la médication, les psychiatres. Alors oui, c'est un problème parce que quand on frappe le mur, c'est tard. Tu sais, faudrait consulter avant, mais qu'un homme le manifeste comme tu l'as décrit, moi, je pense que peut-être que ça va permettre à d'autres hommes d'en parler parce que c'est ça qu'il faut. Puis il parle de tout le soutien que chaque membre de l'équipe du Canadien lui a offert. Oui, c'est touchant parce qu'on sent que ça l'a beaucoup aidé. Puis je pense que d'en parler ouvertement aussi, ça va calmer. Parce qu'on comprend que l'anxiété aussi, c'est là, il y a beaucoup de pression aussi avec la pandémie, les mesures pour plusieurs, c'est comme la pression de trop où on s'écroule, mais n'importe quoi dans notre vie peut se passer, peut être la goutte qui fait déborder le vase, mais il faut pas attendre d'être rendu, mais il faut en parler. Puis je pense que l'insomnie, dans son cas, est un symptôme important parce que l'insomnie mène à plusieurs choses. Alors, ben je tenais à saluer ça parce que la santé mentale, on n'en parlera jamais assez de ça, des problèmes de santé mentale. Il faut consulter, il faut oser y aller, il ne faut pas avoir peur non plus du mot psychiatre, psychiatrie. C'est comme un allergologue, c'est comme un gastro-entérologue. C'est la même chose, ce sont des spécialités. Et quand on a mal, quand notre santé mentale ne va pas bien, il faut se faire soigner aussi.
Oui, puis c'était touchant parce qu'il dit que dès qu'il l'a annoncé, donc à Marc Bergevin et Dominique Ducharme, à la descente de l'avion, il y a eu des larmes, mais il dit qu'il a été vraiment le soutien. Oui. Dès la première journée, ça a été A1. La meilleure réponse que je pouvais recevoir, encore une fois, tant mieux, il est chanceux que Marc Bergevin et Dominique Ducharme l'aient accueilli à bras ouverts. Combien de personnes dans leur milieu de travail ou même dans leur milieu familial ou auprès de leurs proches disent « j'ai un problème de santé mentale » et là, au lieu que les gens fassent des Marc Bergevin et des Dominique Ducharme d'eux-mêmes, que les gens au contraire les laissent tomber, des gens qui perdent leur emploi, des gens qui perdent leur famille, qui perdent leurs proches, qui perdent leurs conjoints, donc... Bravo à Jonathan
Drouin. Parce qu'on les juge.
Exactement.
Ouais, c'est ça. Faut pas aller dans le. On les juge rapidement. Il y a une honte qui habite ça. Et tu sais, quand on leur dit, ben va te reposer un peu, tu vas nous revenir en forme, là, faut arrêter là. Ça là, ça n'est pas une réponse à quelqu'un qui ne va pas bien, qui a de l'anxiété, qui tu sais, ça c'est moi j'entends ça trop souvent puis je me dis mais c'est n'importe quoi. Alors faut entendre et je pense plus qu'on en parle, plus que les employeurs aussi. Tu sais IBM il y a pas longtemps non pas IBM, c'est la Nike, si je me trompe pas, a donné une semaine de congé à tous ses employés pour éviter des problèmes de santé mentale. Wow. Parce qu'ils trouvaient que les 18 derniers mois avaient tellement été intenses qu'il fallait absolument régler ça parce qu'il y avait trop de demandes de congé de maladie. Alors, ils se sont dit, ben là, on met trop de pression sur notre monde, on va enlever de la pression. Tout le monde en vacances payées et on revient plus en forme. Alors, des fois, il peut y avoir des mesures comme ça, mais il faut en parler.
Bon, on espère que les dirigeants de Cube nous écoutent. Une semaine de vacances pour tout le monde. Merci beaucoup, Marie-Claude.
Merci, bonne journée.
Merci beaucoup, Marie-Claude Barrette.
Bye-bye.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
J'ai un petit conseil pour tous les gens qui ont des doutes sur la vaccination ou des gens qui sont peut-être désabusés de la politique. Je conseille à tous ces gens-là de regarder le documentaire du Bureau d'enquête de Québecor qui s'intitule « 100 jours au cœur de la campagne de vaccination ». C'est à voir dès aujourd'hui en exclusivité sur la plateforme pour abonnement Vrai. On va en parler de ça et de la plateforme Vrai avec Ève Lévesque. Elle est directrice pour numérique et le Bureau d'enquête de Québecor. Bonjour Ève.
Bonjour Sophie, merci de me recevoir.
Ben ça fait plaisir. Écoute, j'ai vu ce documentaire-là, donc Félix Séguin et l'équipe qui ont pendant 100 jours eu un accès assez exceptionnel au ministre de la Santé, Christian Dubé, et toute son équipe au tout début de cette campagne de vaccination. Pourquoi c'était important d'avoir cet accès-là? Ève?
Mais je pense qu'en février dernier, le Québec en entier vivait la même chose. On peut dire que nos journées étaient un peu rythmées par l'arrivée de la troisième vague. On suivait encore les points de presse. Mais ce qu'on savait pas, c'est qu'il y avait une équipe, ben en fait, on peut s'en douter, là, mais cette équipe-là qui se levait à 4h30 du matin et qui avait le seul désir là, de vacciner le Québec le plus rapidement possible pour éviter la quatrième vague qu'on vit en ce moment, malheureusement, mais c'était quand même le but de cette équipe-là. Et c'était historique là, ce qui allait arriver. Je lance des fleurs à notre collègue Félix Séguin, Vincent Gilles, là, qui, je pense que l'instinct journalistique le disait, ça allait être gros, ça allait être historique, ça nous prenait des accès, il fallait documenter ça de l'intérieur. Et ça nous donne accès, mon Dieu, je pourrais dire, on dirait qu'on est un peu un petit oiseau, et Sophie, vous l'avez vu, on dirait qu'on est un peu un petit oiseau sur le bord d'une fenêtre, qu'on assiste à ces réunions-là, puis qu'on se dit, OK, c'est comme ça que ça s'est décidé. C'est pour ça que ça s'est arrivé comme ça. C'est pour ça que quand je me suis rendue me faire vacciner au Stade olympique, ça s'est passé de cette façon-là. C'est qu'il y a une équipe, un petit noyau, sont pas nombreux, vraiment pas, qui a travaillé d'arrache-pied pour réussir à mettre ça en place. Et on comprend beaucoup mieux d'où viennent les décisions grâce à ces accès-là.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que je regarde, par exemple, justement, sur son compte Twitter, Félix répond à différentes personnes qui disent « Ah, mon Dieu, bravo pour le documentaire » et tout ça. Et Félix lui-même dit qu'il en a appris sur la politique. Pourtant, c'est un féru de politique, hein. Ça fait des années qu'il couvre ça, qu'il s'intéresse à ça. Mais même lui en a appris sur la façon dont ça fonctionne derrière des portes closes.
Ce qui est vraiment fascinant avec le documentaire, c'est que deux mois après la fin du tournage, donc on a eu des caméramans qui ont passé cinq mois avec l'équipe tout près à tourner tous les jours, à s'effacer dans les bureaux, ce qui fait que c'est des moments sans filtre. Deux mois après la fin du tournage, on a assis en entrevue intime les membres clés du cabinet, donc je pense au ministre évidemment, qui s'en voulait, et à sa garde rapprochée, pour leur demander réellement qu'est-ce qui se passait dans leur tête au moment où on était là. Et c'est là où on a accès au deuxième niveau de profondeur, si on veut. Ces gens-là se regardent vivre les cinq mois les plus intenses de leur carrière. C'est une jeune équipe. C'est une équipe dynamique qu'on n'aurait jamais pu se douter que c'était ces jeunes-là qui étaient derrière le ministre à ces moments-là. Et effectivement, ça nous permet d'avoir un accès à leur connaissance, aux raisons pour lesquelles ils ont pris ces décisions-là, quelles données il y avait au moment où ils ont pris les décisions aussi, qui est assez nouveau là au cabinet du ministre, justement, c'est l'arrivée de ces tableaux dynamiques qu'on a vus à quelques fois là, dans les points de presse. Et ça, c'est grâce à cette équipe-là de jeunes là, qui ont mis ça en place finalement. Donc oui, je pense qu'on en apprend beaucoup parce qu'on apprend aussi à travers les yeux de Christian Dubé, qui est un pédagogue, on va se le dire, là, il prend le temps d'expliquer les choses et pourquoi il prend telle ou telle décision. Puis ça, c'est assez précieux, je pense, pour les Québécois de voir un peu comment ça se passe quand, justement, là, quand ces décisions historiques-là sont prises.
Oui. Alors, ce qui est fascinant, c'est quand tu disais tout à l'heure, c'est comme on sent comme un petit oiseau là qui observe ça. C'est les caméramans qui ont été sur place. Puis je pense que ça vaut la peine de donner leur nom: Martin Beaulieu, Kevin Crane Desmarais. Ils ont vraiment réussi à se faire très discrets, parce qu'à aucun moment on sent que ce soit Christian Dubé, que ce soit Jonathan Valois, que ce soit la responsable des coms, à aucun moment on sent qu'ils sont, je dirais, conscients de la caméra. Donc on a vraiment l'impression que c'est les moments qu'on vit sont des moments vrais, et en particulier à un moment donné, Christian Dubé doit prendre le téléphone pour offrir ses condoléances au conjoint d'une dame qui est morte après avoir eu le vaccin, après s'être fait vacciner. Et tu peux pas, c'est pas un comédien là, c'est pas un professeur de théâtre, Christian Dubé là, son émotion est réelle. Et si les caméramans avaient été plus invasifs, on n'aurait pas eu ce moment là. Christian Dubé aurait pas éclaté ou aurait pas été fragile de la même façon si les caméras avaient été plus intrusives, tu vois.
Absolument. Ça c'est vraiment un travail qui mérite d'être souligné, effectivement, parce que c'est des années d'expérience. Je pense à Martin Beaulieu qui documente ce qui se passe à l'Assemblée nationale depuis plusieurs années. Puis ce qui est bien aussi, c'est le fait justement qu'il puisse s'abandonner comme ça. M. Dubé, à ce moment-là, donc doit faire un appel pour souhaiter ses condoléances aux veuves d'une dame qui est décédée après avoir reçu le vaccin d'AstraZeneca. Puis il oublie complètement là, dans quelle situation il se trouve. On le voit désemparé, on le voit désarmé. Puis il devrait dire que même lorsqu'il revient sur cette période-là, sur ce moment-là particulièrement, en entrevue, il est encore autant ébranlé. On remarque qu'il y a un homme qui se connaît très bien. Je pense qu'il dit « je personnalise les situations ». Si vous écoutez, lorsque vous écouterez le documentaire, vous allez l'entendre. Il dit « je personnalise les situations ». Il n'est pas capable de revenir sur ce moment-là. Je pense que c'est assez loin. C'est un moment vraiment touchant, ça. Puis effectivement, on le voit, il cherche, il se lève, il regarde un peu partout, il sort de la salle, il revient. On a l'impression c'est ça, c'est une caméra cachée, mais non, il y avait vraiment quelqu'un derrière la caméra. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, alors habituellement, les caméras cachées, on les utilise pour les méchants. pour dire... Oui, c'est ça, pour dire « Hey, voici ce qui se passe derrière les portes closes et on va dénoncer les méchants qui... » Mais là, c'est le contraire. C'est pour montrer à quel point ça a été une mobilisation de chaque instant. Toi, Ève, en tant que responsable, justement, au bureau d'enquête, qu'est-ce qui t'a le plus troublé? C'est-à-dire que, en fait, quand on prend la décision, on contacte évidemment le ministère en disant « bon, on vous propose ça, de vous suivre », on a une idée en tête de ce qui va se passer. Entre l'idée que vous aviez en tête et le rendu à la fin, qu'est-ce qui a le plus qui t'a le plus déstabilisé, disons?
Je pense que ce qui est le plus surprenant, c'est probablement parce qu'en tant que journaliste, on s'attend justement à avoir accès à des prises de bec un peu plus intenses. Je pense que je m'attendais aussi à ce que ça brasse pas mal plus au cœur du cabinet. Il y a des décisions pas faciles qui se sont prises. Il y a on le voit dans le tournage brut, si on veut, là. Il y a des moments difficiles, il y a des discussions qui sont assez intenses, mais on lève très rarement la voix. C'est fait dans un climat qui est extrêmement sain. Puis ça, c'est assez spécial pour moi. Ça m'a vraiment frappée. Puis on a demandé aux gens, justement, là, je pense à Mylène Dallaire, qui est responsable des communications auprès du ministre, Marjorie Côté-Boileau aussi, qui est responsable des communications, conseillère politique, Sarah Maud, Boyer-Gendron, à qui on a demandé cette énergie-là, ça se passait comment? Mais il y a des fous rires. Il y a des moments légers. Il y a des moments où on se dit qu'on s'apprécie. Il y a des discussions difficiles, mais on se dit les vraies affaires. Puis ça, pour moi, c'est assez frappant, je dirais. Puis on a dû composer avec ça. Je m'attendais à avoir quelque chose un peu plus, on appelle hard news, si on veut.
Oui.
Donc plus direct, plus cru, mais finalement, ça donne quelque chose qui est assez humain, puis qui est pas du tout, qui remet pas la place de personne en question. On a vraiment, c'est vraiment pur et assez candide là, comme postulat.
Alors, parle-moi un peu de cette capsule-là, les trois entrevues avec les trois jeunes femmes dont tu viens de nous parler, parce qu'on a tellement entendu la politique, c'est un boys club, c'est entre les mains d'hommes hétéros, blancs, de plus de 50 ans. Mais là, ces trois jeunes femmes-là sont vraiment elles qui sont au cœur, là, vraiment du ministère de la Santé, puis au cœur de cette campagne de vaccination. C'est fascinant.
Oui, exactement. À travers le documentaire, on en découvre deux d'entre elles. Demain, sur le 24h.ca, sortira donc une capsule dans laquelle on découvre ces trois jeunes femmes qui ont la trentaine à peine et qui occupent des postes clés au cabinet. Ce sont des gens qui travaillent très près du directeur de cabinet, Jonathan Valois, qui est vraiment allé chercher une équipe jeune. Je pense que c'était assez voulu. Puis on remarque qu'il y a quand même ce clash-là entre justement une garde qui est un peu plus âgée, puis ces jeunes-là, ces jeunes femmes-là. Et elles sont assez claires, là. Elles ont reçu la confiance pour faire leur travail. Elles ont les coups des franges. Puis on peut pas s'en douter, nous, quand on écoute le point de presse, mais la personne qui écrit les discours du ministre Dubé, c'est Mylène Dallaire, donc une jeune femme de Québec qui challenge le ministre sur plein de choses, sur plein de sujets, qui repratique les points de presse avec lui, qui lui dit un peu comment ça devrait sortir pour que ça soit clair. Même chose pour Marjorie Côté-Boileau, qui est son attachée de presse, avec qui les journalistes travaillent quand même assez régulièrement, qui dirige un peu et qui challenge aussi le ministre Dubé sur plein de choses. Et puis Sarah Maud, qui est là aussi, puis elle, avec sa flamme, on sent vraiment qu'elle a une flamme politique là, qui brûle en dedans d'elle. Elle est là pour les bonnes raisons. Puis c'est assez fascinant justement de voir ces jeunes femmes-là qui ont occupé des fonctions stratégiques là, parce que les communications qui sortaient du ministère de la Santé, les tableaux, les tweets, etc., c'est un peu ce à quoi on s'est accroché durant les derniers mois.
C'est vrai.
Pour apprendre des choses pour. Et si ça n'avait pas été clair, ici, on aurait tous été fâchés. Je pense que les Québécois auraient été, mais là, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ci? Mais, les gens qui ont rendu ça accessible, peut-être. C'est vraiment ces femmes-là au cœur là, du cabinet du ministre.
Oui, c'est vraiment fascinant. Donc, Ève, cette plateforme vraie, parle-nous-en un peu. J'ai envie de te lancer en te posant la question, qu'est-ce que ça mange en hiver, ce vrai?
C'est ça. C'est la nouvelle plateforme de contenu, on pourrait dire réalité de Vidéotron. Donc, on y retrouve à la fois des documentaires, des docu-réalités, puis même des télé-réalités. Puis je dois dire que l'offre de contenu est vraiment touffue. Là. C'est intense. C'est du contenu québécois, c'est du contenu en français pour la majorité. Et tu sais, c'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse, mais le documentaire, c'est une fenêtre sur le Québec. Enfin, c'est des fenêtres sur le Québec, en fait. Et il y a des documentaires sur cette nouvelle plateforme-là, vrai, qui est accessible à partir soit de cube.ca ou d'Elix en ce moment. Si vous avez Elix, c'est possible de s'abonner. Les documentaires sont excellents, sont bien ficelés. C'est vraiment des histoires qui nous tiennent en haleine, finalement. Je pense à De Prix Ferme, qui est sur la plateforme en ce moment, qui est une série documentaire sur les agriculteurs du Québec. Puis je pense aussi à toute l'offre du bureau d'enquête qui est maintenant disponible sur Vrai, qui est là. Des documentaires sur des sujets de société qui ont fait débat, dans lesquels on apprend énormément de choses. Fait que, ouais, sinon, c'est vraiment une super belle plateforme. C'est du contenu sur demande. Fait que c'est possible de binger, si on veut, en guillemets, donc de consommer les contenus sans limite, sans s'arrêter.
De télévorer.
Heures, si on veut. De télévorer,
oui,
merci.
De télévorer, Ève, tu vois, c'est
non,
ça, c'est
bon,
dévorer des émissions de télé de façon compulsive. C'est un des rares cas où la compulsion a bien meilleur goût. Ben écoute, oui, merci beaucoup, Ève, ça a été un plaisir de te parler, puis encore une fois, félicitations à toute l'équipe, là, c'est vraiment absolument passionnant. Et je pense que ça va réussir à convaincre beaucoup de gens. Tu sais, des fois, on est très critique par rapport à nos politiciens, on est très critique aussi par rapport aux fonctionnaires, par rapport à la bureaucratie. Mais quand tout le monde se relève les manches, c'est le cas de le dire, et ben on peut arriver à ça. Et écoute, en date là de vendredi dernier, les chiffres sont excellents. Quand même, 82% des gens au Québec qui sont doublement vaccinés. Et grâce à toute cette équipe-là, c'est vraiment super intéressant. Merci beaucoup. Ève Lévesque.
Merci, merci, bonne journée.
Ève Lévesque, donc, qui est directrice pour numérique et le bureau d'enquête de Québécois. Donc, je vous invite évidemment à aller voir ça sur la nouvelle plateforme Vrai. Et voilà, c'était l'émission lendemain de veille pour bien des gens après cette élection vraiment au résultat assez décevant. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous êtes jamais décevant. Merci à Maxime Lacasse à la mise en onde, à la réalisation. Merci à Florence Lamoureux et Luc Fortin à la recherche. Je vous embrasse puis je vous dis à demain.